Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le calendrier veut que nous célébrions aujourd'hui, en ce dimanche, la fête des saints apôtres Pierre et Paul. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ces paroles vont résonner et résonnent pendant toute la messe, tout l'office de cette fête de Saint Pierre et Saint Paul. Saint Paul est un petit peu en retrait effectivement dans cette messe, c'est pour ça que il jouit d'une fête particulière renvoyée donc au lendemain. Et donc, eh bien, on va suivre la liturgie et parler spécialement de l'apôtre Saint Pierre et particulièrement de cette église qui est bâtie sur Saint Pierre. Bâtie littéralement, bâtie physiquement, et la basilique Saint-Pierre du Vatican, comme une image de l'Église qui est bâtie sur l'apôtre Pierre. Pierre, qui est-il? Eh bien, il s'appelle Simon, il est pêcheur, des environs de Capharnaüm, hein, on le voit au bord du lac de Capharnaüm, la mer de Galilée, comme on disait également. Il est appelé par notre Seigneur Jésus-Christ parmi ses premiers disciples, et il est même choisi par notre Seigneur pour être le chef des apôtres. Et à ce sujet, notre Seigneur va changer son nom. De Simon, il l'appelle Képhas, c'est-à-dire Pierre, en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». En changeant son nom, et on le voit très souvent, notamment dans l'Ancien Testament, Abraham qui devient Abraham, son épouse Sarai qui devient Sarah, on a également évidemment Jacob qui devient Israël, c'est-à-dire fort contre Dieu, etc. Et donc, les changements de nom sont fréquents et montrent une mission particulière. Cette mission particulière de Saint-Pierre, c'est d'être le chef de l'Église. Et ce sera confirmé, bien entendu, par notre Seigneur Jésus-Christ, notamment après la résurrection, avec cette triple confession « Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? » comme réponse au triple reniement de Saint-Pierre pendant la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'épître d'aujourd'hui, nous retrouvons Saint-Pierre, ici, ultimement, dans les Actes des Apôtres, juste avant de quitter Jérusalem. Il y a des persécutions par les Juifs et Saint-Pierre se retrouve en prison pour être mis à mort, hein, à l'occasion de la fête de Pâques, c'est ce qui ressort directement de ce texte. Et il est miraculeusement délivré par un ange. Saint-Pierre, par la suite, va quitter Jérusalem. Et cette persécution, nous le voyons, est une marque aussi de la providence divine qui permet à l'Église vraiment de se répandre à travers le monde, spécialement le bassin méditerranéen, mais on va beaucoup plus loin, n'est-ce pas, dans les terres même africaines, jusqu'en Éthiopie, jusqu'en Arabie, voire même en Inde, pour l'apôtre Saint Thomas, selon la tradition. Saint-Pierre, lui, il va aller d'abord vers Antioche et il va aller finalement au centre névralgique de l'Empire romain, c'est-à-dire à Rome. Saint-Paul, grand apôtre, va aussi l'y retrouver à Rome et tous deux seront martyrisés sous le fameux empereur Néron. Bien connu, hein, cet empereur Néron pour sa cruauté, notamment envers les chrétiens qu'on accuse de tous les maux. Saint-Pierre meurt martyr selon les traditions, l'a crucifié la tête en bas, hein, donc il y a plusieurs traditions qui valent ce qu'elles valent, mais qui sont un peu tardives, peu importe. En tout cas, nous savons qu'il a été persécuté, nous savons qu'il est mort martyr, nous savons en quel endroit, hein, c'est-à-dire dans le cirque de Néron, près de la colline du Vatican, au pied de cet obélisque qui aujourd'hui est en plein milieu de la place Saint-Pierre, mais ce n'était pas sa place originelle. Elle a été déplacée par le pape Sixte Quint en 1586. D'ailleurs, c'était une grosse opération d'ingénierie pour ne pas la casser. Et finalement, tout s'est bien passé. L'emplacement originel est encore marqué aujourd'hui par une pierre. Et donc, cet obélisque, au milieu de la place Saint-Pierre, il faut s'imaginer qu'elle a été témoin du martyr de Saint-Pierre. Elle a été témoin du martyr certainement de nombreux chrétiens. Près de cette, nous sommes à peu près vers l'an 65, on n'a pas les dates absolument exactes, Saint-Pierre, comme nous le verrons à ce moment-là, a entre 60 et 70 ans. Donc, on le représente souvent avec notre Seigneur comme étant une espèce de vieillard déjà, mais finalement, Saint-Pierre, quand il est choisi par notre Seigneur, s'il est plus âgé que notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas de beaucoup, c'est de quelques années seulement. Donc Saint-Pierre, il meurt ici, et près de ce cirque de Néron, en dehors des murs de la ville de Rome, se trouve une nécropole. Nécropole, c'est la ville des morts, n'est-ce pas, littéralement. Donc, le corps de Saint-Pierre, la nécropole, était en dehors de la ville. On mettait les morts en dehors. Et donc, Saint-Pierre va être, son corps va être récupéré naturellement par les chrétiens et être enterré dans cette nécropole. Et nous en avons des témoignages. Nous avons plusieurs témoignages anciens. Nous avons le témoignage, on attribue au pape Anaclet, donc début du IIe siècle, d'ériger un petit oratoire sur la tombe de Saint-Pierre qui pouvait accueillir déjà des fidèles pour prier. Vers 95, Saint Clément de Rome écrit dans sa première épître ceci. Regardons les saints apôtres. Pierre, victime d'une injuste jalousie, subit non pas une ou deux, mais de nombreuses épreuves, et après avoir ainsi rendu son témoignage, il faut savoir que derrière le mot français témoignage, il y a le mot grec et latin martyr. Après avoir rendu son témoignage, il s'en est allé au séjour de la gloire où l'avait conduit son mérite. Au IIe siècle, vers l'an 170, l'évêque Dionysius de Corinthe écrit à Rome en confirmant que Pierre est bien mort et enterré à Rome. Il remercie d'ailleurs Rome pour son aide aux autres églises. Vers l'an 200, le prêtre romain Caius dit ceci, et c'est rapporté par saint Eusèbe dans son Histoire ecclésiastique, « Je puis te montrer les trophées des apôtres, de Pierre au Vatican, de Paul sur la voie d'Ostie, puisque saint Paul a été martyrisé, décapité, puisqu'il était citoyen romain, lui, décapité, c'était une faveur hein, de décapiter, même si leurs épées n'étaient pas forcément hyper bien aiguisées, c'était quand même une faveur d'être décapité au lieu d'être crucifié. » On le comprend bien. Donc le trophée, c'est-à-dire que sur la tombe des saints apôtres, a été déjà érigé à cette époque, dès le IIe siècle, un monument funéraire. Ce qu'on va appeler le trophée de Gaius. Au IIIe siècle, la tombe des apôtres est vraiment un lieu de pèlerinage. Et l'empereur Constantin va ordonner la construction de nombreuses églises dans l'Empire romain constantinien, et en particulier la construction d'une basilique sur le tombeau de Saint-Pierre, la première basilique vaticane. Pour cela, il va falloir combler. Je vous rappelle que le Vatican est une colline. Donc, il va y avoir de nombreux remblais et la nécropole va être bien abîmée par les travaux pour ériger cette grande basilique constantinienne, une basilique composée de 5 nefs, très grande, et avec l'autel qui se trouve précisément sur le au-dessus, plus exactement, du tombeau de Saint-Pierre. Une petite fenestrella permettait aux fidèles d'apercevoir la tombe de Saint-Pierre, voire de jeter des monnaies, ça se faisait déjà à l'époque, des offrandes sur la tombe de Saint-Pierre. Ce n'est pas anodin, cela. Elle est consacrée, cette basilique, en l'an 333 par le pape Saint-Sylvestre Ier. Cette basilique va tenir debout jusque au XVIe siècle. Au début du XVIe siècle, le pape Jules II ordonne la démolition parce qu'elle devient dangereuse. À l'époque, on n'avait pas ce goût des anciennes pierres, n'est-ce pas, de les conserver à tout prix. Et dans un esprit hyper traditionnaliste, pas du tout. Hein, on va construire une basilique qu'on estimera plus belle. Bien sûr, dans le style de l'époque, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, le fait est que la basilique constantinienne avait vécu plus d'un millénaire et était devenue dangereuse. Donc, on reconstruit. À l'époque de la reconstruction, on ne va pas tellement s'occuper de faire des fouilles. Cette reconstruction va être menée par Bramante, le fameux Raphaël, Michel-Ange, des noms bien connus, Maderno, et puis le Bernin, n'est-ce pas, qui va ajouter la place Saint-Pierre, cette fameuse colonnade, et qui va aussi ériger au-dessus du tombeau, le fameux baldaquin avec ses magnifiques colonnes torsadées en marbre au-dessus du tombeau de Saint-Pierre. Donc, au-dessus du tombeau, il faut imaginer toutes les couches, le tombeau, le fameux trophée de Gaius, l'autel de Constantin, l'autel de Saint-Grégoire le Grand, puisque Saint-Grégoire a fait un autel plus fonctionnel, et enfin la confession de Saint-Pierre, aujourd'hui donc sous cette magnifique coupole. Donc le maître-autel de la basilique Saint-Pierre est précisément au-dessus de la tombe de l'apôtre. Nous le savons et nous en sommes certains. Certains n'ont pas de la certitude des sciences positives, physiques et chimiques, etc. Certains de la certitude historique, c'est-à-dire que nous avons un faisceau de preuves historiques convergent qui nous permet de dire, comme le fera en 1950 le pape Pie XII, que sous cette grande coupole, c'est ce qu'il dit dans son radiomessage juste avant Noël, le 23 décembre 1950, sous cette grande coupole, nous sommes certains d'avoir le tombeau de Saint-Pierre. Pourquoi en est-on arrivé à cette conclusion ? Les preuves historiques, je vous les ai données. Hein. Il y a ces preuves textuelles. Et lorsque le pape Pie XI meurt en 1939, le camerlingue du Saint-Siège, c'est le cardinal Pacelli. Le cardinal camerlingue doit s'occuper des obsèques du pape, organisation du conclave, etc. Et également, bien sûr, s'il s'agit des obsèques, de faire creuser la tombe. On commence à creuser pour installer la tombe du pape Pie XI et on tombe sur des restes archéologiques, des restes de murs. Donc on s'arrête, on va le mettre un peu plus loin. Et Pie XII devenant pape, le cardinal Pacelli devenant pape le 2 mars 1939, sous le nom de Pie XII, va faire continuer les fouilles, mais en secret. En 1939, c'est la guerre. Il y a l'occupation, bien sûr, allemande, un peu partout, et notamment bien en Italie, hein, avec la complicité du régime fasciste, de Mussolini. Donc ce n'est pas toujours évident pour l'Église, et il est préférable, vu en plus le goût des nazis pour les reliques anciennes, n'est-ce pas, eh bien, il est préférable de garder ces fouilles secrètes. D'autant plus que c'est tout à fait normal pour ne pas ébruiter et ne pas donner de fausses joies, bien sûr, aux fidèles. Donc ces fouilles menées en particulier donc par des ecclésiastiques, qui sont en même temps archéologues, sous la direction de Monseigneur Casse, met au jour la nécropole. Donc une vraie nécropole, c'est-à-dire, pour ceux qui ont visité, vous avez des rues. Certes, elles sont étroites, n'est-ce pas? Par un moment, il faut se mettre de côté pour pouvoir circuler. On ne peut pas circuler à deux de front. Il y a des petites maisons, des mausolées. Certains sont bien conservés, avec encore des fresques, etc. Et en creusant, eh bien, on finit par tomber sur le fameux trophée de Gaius. Donc le trophée de Gaius, un monument funéraire, il se place juste en dessous de l'autel de Saint-Pierre. On continue à creuser, donc on met au jour derrière ce trophée un mur de briques, un mur qu'on appelle le mur rouge. Perpendiculaire à ce mur, il y a le mur qui est appelé par les archéologues le mur G, le mur des graffitis. Et sur ce mur G, eh bien, il y a des graffitis, des vrais graffitis, hein, qui sont gravés dans l'enduit. Et donc ce mur est quand même un peu abîmé, forcément, il y a du différent remblai. Il y a des graffitis chrétiens, des chrismes, n'est-ce pas, les deux lettres « qui » et « ro », les deux lettres grecques, les premières lettres du mot « Christus », « Christ » en grec, qui sont par exemple sur le baptistère, ici en forme de croix latine, et qui se trouve souvent sur les ornements sacrés, n'est-ce pas? Ce qui ressemble à un X et à un R, mais ce n'est pas un R, un P, c'est un Rho grec. Donc, ce n'est pas Pax, ce chrisme, je le répète, pour ceux qui insistent là-dessus, ça veut dire Christos, Christ. C'est un des symboles chrétiens très utilisés, notamment dans les catacombes. On trouve différents ossements, donc au pied de ce mur, dans les fouilles, en dessous. Dans les fouilles, on trouve plusieurs tuiles, en dessous du trophée de Gaius. On trouve également des ossements, et là c'est plus intéressant, dans ce mur, dans un petit loculus, une petite cavité de ce mur des graffitis. On trouve des ossements. Ces ossements sont mis dans une boîte et mis de côté. On ne s'occupe pas des ossements, on ne s'occupe que de la tombe de Saint-Pierre. Au pied du mur, on retrouve un fragment sur lequel est inscrit « Petros eni » en grec, c'est-à-dire « Pierre est ici ». Voilà, donc forcément, cela est intéressant. Ces restes sont découverts en 1942, ils sont mis de côté. Les analyses vont être relancées par Margherita Guarducci en 1953. Margherita Guarducci, c'est une épigraphiste, donc spécialiste des inscriptions anciennes, archéologue. Elle va reprendre à partir de 1953 le dossier en main. Et elle va s'occuper en particulier des ossements qui avaient jusqu'ici été laissés de côté. Elle va faire appel à un médecin spécialiste, donc anthropologue, Venerando Correnti, qui va étudier un peu tous les ossements à partir de cette date. Donc, les ossements qui se trouvent au pied, on a plusieurs restes de plusieurs corps, d'une vieille femme, des restes de poulet, etc., qui témoignent probablement aussi des repas funéraires hein, qui se faisaient sur les tombes. Et ce n'est qu'en octobre 1962 qu'on va s'intéresser aux ossements qui étaient présents dans cette petite cavité, n'est-ce pas, de ce fameux mur des graffitis. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a plus des ossements disparates. Moi, à part quelques ossements, un ossement de souris, tout ça, des choses qui peuvent s'expliquer en raison des fissures dans le mur. On retrouve des pièces de monnaie, dont une pièce de monnaie médiévale. Là aussi, ça s'explique, comme je vous l'ai dit, hein, par ces éventuelles offrandes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont les ossements d'un seul et même homme. Outre ces ossements, il y a un peu de terre. Cette terre correspond aux strates les plus anciennes, en dessous du trophée de Gaius. Donc ça, c'est très intéressant au niveau archéologique. Ces ossements sont entourés de restes de tissus précieux. Quand on dit de restes, c'est vraiment des fragments. Mais il y a des fragments de pourpre, d'or, etc., qui indiquent que ce ne sont pas n'importe quels ossements. Ces ossements proviennent de tout le corps. Donc il y a même des morceaux de la tête, etc. De la tête aux pieds, il y a des petits fragments de tout le corps. Il s'agit, selon le professeur Correnti, d'un homme robuste qui est mort à peu près à 60-70 ans. Bien sûr, vu ce qui reste, il n'y a aucun traumatisme visible sur les os. Le crâne dans son entier est absent, il y a des fragments, mais on sait que le crâne, selon la tradition, est conservé à Saint-Jean de Latran. Et tout porte à croire donc que ces ossements, dans cette cavité, dans ce mur, portant des graffitis chrétiens, donc chaque chrétien qui visitait la tombe de l'apôtre voulait mettre sa marque, avec ces mots « Petros eni », « Pierre est ici », bien sûr, les mauvaises langues diront oh « oui, bon, on peut interpréter autrement », on pourrait dire « Pierre n'est pas ici », alors sauf que le « n'est pas », on le trouve pas sur les inscriptions, donc voilà, hein, alors qu'on a un fragment qui est bien net, ou bien « Pierre est en paix » parce qu'on trouve le mot « eirene », le mot grec qui signifie « paix », sauf que il est inscrit sur d'autres parties du mur et n'est pas en continuité. Donc c'est vraiment des objections qui ne tiennent pas la route, et Margherita Guarducci était quand même une spécialiste pour le coup des inscriptions. C'est ce qui nous mène évidemment à penser avec beaucoup de probabilité, cette probabilité historique, que ces ossements sont bien les ossements de Saint-Pierre. Donc non seulement nous avons le lieu de la tombe de Saint-Pierre, nous avons aussi ces ossements qui ont été mis dans ce mur ce mur des graffitis. Donc, nous avons une tradition absolument continue depuis le deuxième siècle, le début du deuxième siècle, qui atteste de la présence de Saint-Pierre à Rome, qui atteste de la sépulture de Saint-Pierre à Rome. Au cours de ces siècles, ces reliques ont été vénérées. C'est important. Par les chrétiens, notamment par le moyen de ces fameux graffitis. Au-dessus de ces reliques, on a construit plusieurs monuments, bâtiments, systématiquement à cet endroit précis, jusqu'à la basilique Saint-Pierre que nous connaissons. Donc nous avons bien un lieu archéologique particulier, qui a une histoire, qui est sourcée, qui a une continuité pendant 2000 ans. Quel événement, quelle personne peut jouir au niveau historique d'autant d'éléments? Tout le monde croit à Hannibal. Il y a beaucoup moins d'éléments sur le fameux Hannibal et ses éléphants que sur le tombeau de Saint-Pierre. Beaucoup moins. Donc, mes bien chers frères, pour conclure cette histoire, et je pense que c'est important d'en tirer les conséquences. Les conséquences, c'est par rapport à des objections qui ont été fréquemment faites contre l'Église de Rome, qui est la mère et la tête de toutes les églises. Notamment que Saint-Pierre n'aurait jamais été à Rome. C'est une objection des protestants, des rationalistes du XIXe siècle. Cependant, ces protestants et ces rationalistes n'ont aucune preuve, aucune historique, archéologique, que Saint-Pierre ait été ailleurs et fini sa vie ailleurs qu'à Rome. Il n'y en a aucune. Donc on se prétend rationnel, on prétend avoir des arguments, mais en fait, on n'a que des sceptiques qui passent leur temps à nier, mais sans aucune preuve. Alors même que l'Église n'a pas peur de faire des recherches historiques, archéologiques, avec le plus grand sérieux. Le pape Pie XII n'a pas eu peur éventuellement de ne pas retrouver le tombeau de Saint-Pierre. Pourquoi ? Parce que ça n'aurait rien changé à notre foi. Mais en plus, pour le coup, on a retrouvé non seulement ces différentes strates, donc le tombeau, mais on a retrouvé ceux qui sont très probablement, eu égard à tous ces éléments, les ossements vénérés et vénérables de l'apôtre, précisément pendant des siècles et des siècles, depuis la basilique constantinienne, on a, les papes en particulier, ont célébré la messe au-dessus même des reliques de l'apôtre Saint-Pierre. Tradition, n'est-ce pas, de célébrer la messe d'ailleurs sur les reliques, tradition qu'on perpétue ici, d'autres reliques, et tradition qui se perpétue dans les autels, puisque vous savez, dans chaque autel, les véritables autels, pas les tables arpassées ou de bistrot qu'on a aujourd'hui, les véritables autels en pierre, n'est-ce pas, qui comportent un petit tombeau avec une boîte, avec des reliques, notamment de saint martyr. Donc, Pierre n'a jamais été à Rome, ça ne tient pas debout. Il y a les textes et il y a aussi ces éléments archéologiques. Les reliques, c'est de la superstition. Encore le protestantisme, n'est-ce pas ? Combien de reliques, combien de statues de saints, nos belles cathédrales que nous voyons abîmées pour beaucoup, notamment leur fronton, tout ça avec des statues qui sont décapitées, abîmées, etc. Souvent, cela est dû aux protestants qui saccageaient. Ils brûlaient les reliques des saints parce qu'ils estimaient comme une superstition le culte des saints et en particulier le culte des reliques. Les protestants sont des novateurs. Ils ne sont pas dans la tradition, dans la continuité de l'Église, parce que dès les premiers siècles de l'Église, nous voyons les chrétiens faire des graffitis, aller sur la tombe de Saint-Pierre comme un lieu de pèlerinage. Ça veut dire qu'ils vénéraient Saint-Pierre, ça veut dire qu'ils vénéraient ses reliques. Donc, le culte des saints, et en particulier le culte des saintes reliques, est attesté par la pratique de l'Église contre le protestantisme en particulier, qui est une religion nouvelle en vérité et qui n'est pas du tout un christianisme plus pur comme ils prétendent l'être. Toute l'histoire de l'Église le démontre et démontre que les thèses protestantes sont une rupture absolue avec toute l'histoire de l'Église, avec toute la doctrine de l'Église. D'ailleurs, on pourrait même s'appuyer sur l'Ancien Testament, puisque dans l'Ancien Testament, on retrouve également ce culte des tombeaux. Les tombeaux des saints patriarches sont nommément précisés, et on a ce culte qui existe déjà dans l'Ancien Testament. Donc, nous voyons, mes chers frères, que l'Église n'a pas peur d'affronter les réalités historiques. Nous voyons que l'Église est capable et existe depuis notre Seigneur Jésus-Christ, bien entendu, et est capable de conserver ses traditions, c'est-à-dire ses traditions géographique, ces traditions de culte, d'une manière ininterrompue. Si on a conservé aussi précieusement depuis le premier siècle le lieu du martyr, le lieu de la sépulture de l'apôtre Saint-Pierre, vous croyez qu'on a été moins attentif avec les reliques de notre Seigneur Jésus-Christ, ces restes, qui ne sont pas les restes évidemment, notre Seigneur est bien ressuscité, mais les lieux qui ont été foulés par notre Seigneur Jésus-Christ, que ce soit la grotte de Bethléem, que ce soit le tombeau, le mont du Calvaire, le jardin des Oliviers, et bien sûr le sanctuaire de Turin. Vous croyez que l'Église n'a pas précieusement gardé tout cela ? Elle aurait gardé précieusement le tombeau de Saint-Pierre, mais se serait désintéressée d'autre chose. Elle aurait gardé précieusement non seulement le tombeau de Saint-Pierre, mais aussi celui de Saint-Paul et celui de beaucoup d'autres saints des premiers siècles. Donc, nous avons un témoignage aussi envers cette solidité de la transmission dans la Sainte Église et de cette transmission historique. Ce tombeau de Saint-Pierre nous ramène donc à cette transmission ininterrompue depuis les apôtres, depuis nos premiers pères dans la foi. Si on a transmis de cette manière les lieux, on a aussi transmis la foi, la sainte doctrine, et la foi en particulier dans l'apôtre Pierre comme fondement de l'Église. Ce n'est pas pour rien qu'on a fondé les différents monuments, autels, au-dessus de cette tombe de Saint-Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. L'Église Saint-Pierre de Rome, la Basilique Vaticane, est véritablement fondée sur le tombeau de Saint-Pierre. L'Église catholique, apostolique et romaine est fondée sur Pierre et ses successeurs, c'est-à-dire sur la papauté. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas développer ce sujet, je voulais parler simplement de ces données archéologiques, historiques, qui sont là pour aussi nous conforter dans notre foi, nous conforter dans notre culte des reliques, nous conforter dans notre amour de Rome, de Saint-Pierre en tant que premier chef de l'Église, notre amour du Saint-Siège apostolique. C'est en raison de cet amour du Saint-Siège apostolique que nous ne pouvons reconnaître Monsieur Robert Prévost comme véritable successeur de Pierre, parce que il ne correspond pas à la définition du pape telle qu'elle a été donnée par les saints évangiles, par notre Seigneur Jésus-Christ, telle qu'elle a été transmise par l'Église jusqu'à ces magnifiques définitions du premier concile du Vatican. Donc aujourd'hui, que devons-nous faire ? Nous devons rester profondément romains. Nous devons rester profondément attachés au Saint-Siège apostolique. Nous devons désirer et demander à Dieu de nous donner un véritable successeur de Pierre. Et enfin, nous devons veiller à mériter autant qu'il est possible, selon nos forces humaines, avec l'aide de la grâce de Dieu, nous devons mériter d'avoir un véritable successeur de Pierre par un état d'esprit véritablement chrétien, romain, un état d'esprit de soumission à tout le magistère de la Sainte Église, à tous ces pierres, ces papes qui se sont succédés jusque à Vatican II pour vraiment établir la doctrine de la foi. C'est sur eux que nous devons aujourd'hui, dans ce monde trouble, nous fonder, et c'est à eux, à leur loi, que nous devons bien entendu nous référer, obéir et garder cette docilité envers le Saint-Siège apostolique, justement pour être digne et bien disposé à obéir et à recevoir une véritable autorité, un véritable pape. Donc prions bien Saint-Pierre, prions bien les saints apôtres Pierre et Paul, tous les saints papes qui se sont succédés, pour que nous ayons un véritable successeur de Pierre, et restons attachés à la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, hors de laquelle il n'y a point de salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.